טוב, אז בעזרת השם, פרשת קורח, פרשת très dur. On va voir ce qui s'est passé exactement. Donc, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de ce qui s'est passé au moment de la parashat Korah? Tu connais?
Oui.
On va faire un petit récapitulatif. Il y a un monsieur qui s'appelle Korah. C'est pas un petit monsieur. C'est un gdol ador, d'accord? Il fait partie des plus grands de la génération. Et ce monsieur Korah, il est Lévi lui aussi, comme Moshe et Aaron. Et maintenant, il ne comprend pas une chose. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il y a un problème ? Pourquoi Moshe Rabbeinu, toi, tu es à la tête du peuple et tu as mis ton frère à la Kehuna. Les deux rôles les plus importants du peuple d'Israël, tu as fait ce qu'on appelle en hébreu protexia, du piston. Qu'est-ce qui se passe? Korah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Il commence à avoir des ta'anot contre Moshe Rabbeinu. Et il va dire les phrases suivantes. Vayomeru alehem rav lachem. ככל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל אדוני. Il leur dit quoi? Il dit, vous en avez assez, toi et Aaron, vous en avez assez pris. Pourquoi c'est vous qui allez être à la tête du peuple d'Israël? Ah, et nous aussi on a entendu Hachem nous parler sur le Har-Sinaï. Il n'y a pas que toi, nous aussi on a vu Dieu. Pas que toi. Parce pourquoi c'est toi et ton frère qui êtes à la tête? Vous êtes les seuls à parler à Hachem. Hachem réside dans tous les peuples d'Israël. Et là, il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. En gros, c'est ça, toute la ta'ana de Korah, pour ceux qui ne savent pas, pour l'instant. Donc, juste, je vous résume. Donc, c'est entre guillemets une révolution. Oui, il y a Moshe Rabbeinu, il a choisi son frère sur ordre divin pour être le Kohen Gadol, les enfants de son frère pour être les Kohanim, et dans la tribu de Lévi, il y en a qui ne sont pas contents, ils disent c'est pas normal, fin aux privilèges, fin des privilèges, d'accord, on va tuer Louis XVI, d'accord. Donc comme ça ils arrivent, ils font une révolution. Ça, ce qui est écrit ici, Rashi nous dit dans la parashat Dvarim. Là-bas, vous savez que la Torah, elle dit que Moshe Rabbeinu, il a fait des tochachot, des réprimandes au peuple d'Israël. Et il leur a fait les réprimandes, pas en direct, pour pas leur faire honte. D'accord? Il leur a cité tous les endroits où ils ont fait d'Averot. Vous savez que la parasha de Dvarim, elle a été dite le dernier jour de la vie de Moshe Rabbeinu. Ouais, tout le Sefer Dvarim, la veille de sa Ptira, il va leur répéter toute la Torah. Et tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui s'est passé pendant toutes ces 40 ans où ils ont erré dans le désert, il va tout leur répéter. C'est pour ça qu'on l'appelle le Mishneh Torah. La répétition de la Torah. Ouais. Et il dit quoi? Au début, il commence, vu que c'est comme ça l'habitude. On voit que Yaakov Avinu, au moment où il allait quitter ce monde, il a fait des réprimandes à ses enfants, etc. Tout le temps, on voit que juste avant de partir, on doit laisser un message. Donc, Moshe Rabbeinu, il fait des réprimandes, mais discrètement. C'est-à-dire qu'il va citer les noms des lieux où ils ont fait des fautes, et eux, ils vont comprendre tout seuls. C'est comme si maintenant, je sais pas moi, je te croise pendant... je sais pas, je te croise maintenant en train d'écouter de la musique dans on va dire, on va prendre un truc kasher à Galpaz pendant les 3 semaines, d'accord, pendant les 3 semaines de Ben Ametsarim.
On va pas avoir écouté de la musique.
Non, on n'a pas avoir écouté de la musique. En tout cas, allez, on va dire Rosh Chodesh, comme ça on est sûr d'après tout le monde. à partir de Rosh Chodesh, tu n'as pas le droit d'écouter de la musique. Donc, je te vois, Galpaz, avec les écouteurs comme ça, et moi, je passe devant, et je te vois comme ça avec les écouteurs dans les oreilles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas te dire. Le lendemain, quand je vais te croiser, je ne veux pas te dire. Hé, je t'ai vu, tu écoutais de la musique pendant les 3 semaines. Je vais te dire, ah, je t'ai croisé devant Galpaz hier. Et toi, tout seul, tu vas comprendre que je te fais une tochacha.
Si j'écoute un cours de Torah.
Ok, alors s'il n'y a pas de Torah, il n'y en a pas. Et s'il y en a une, il y en a une. Maintenant, mon cher Abenou, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose dans la paracha de Dvarim. Il va dire les noms des lieux où les Bnei Israël ont fait d'Averot.
Le même Israël.
Pour que eux tout seuls, ils comprennent la Torah. D'accord? Et il commence. Donc il nous cite tout plein d'endroits. Donc Be'ever Ayarden, Bamidbar, Be'arava, Moulsouf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan. Ouais, vers Hatserot, vers Hatserot, vers Dizahav. Donc tout ça, c'est des lieux d'endroit. Maintenant, Hatserot, qu'est-ce qui s'est passé à Hatserot? Rashi nous dit, c'est quoi? Be Mahloktan shel Korah. Il leur a fait une réprimande sur la Mahloket de Korah, à Hatserot. Maintenant, Hatserot, en vérité, si on regarde bien, c'est pas évident que Korah, c'est à Hatserot. En gros, c'est une mahloquette. Il y a des contradictions dans Rashi lui-même. Parce qu'un coup, on peut expliquer comme ça, ou un coup, on peut expliquer comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À Hatserot, il y a eu une autre Avera. Elle s'est passée dans la parashat de Baalotecha. À la fin de la parashat de Baalotecha, que vous avez tous lu et tous compris, parce que vous avez fait Shnei Mikrei Vechad Targum, et que vous avez compris avec Rashi, etc. Vous avez lu la traduction en français. C'est vrai que c'est obligatoire. D'accord, pour quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, avant Shabbat, il doit quand même avoir lu la parasha en français, c'est un minimum, non? Comprendre un peu ce qu'on est en train de lire à la Torah, ouais. Donc, à la fin de la parasha de Be'alotecha, surtout quand le vendredi, il n'y a pas de seder, donc à la fin de la parasha de Be'alotecha, il y a un épisode qui s'est passé, et ça c'est à Hatserot. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé à la fin de la parasha de Be'alotecha? Hein? Non, il n'y a pas Amalek. Un épisode qui s'est passé à Hatserot. Non, ça c'était avant. Ça c'est le milieu de Baalotecha. Hatserot, c'est un endroit dans le désert qui s'appelle Hatserot. Ah, c'est ça qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'ils ont fait. Rashi ici dit qu'ils ont fait la faute de Korah. Mais en vérité, il dit une deuxième chose. Et c'est ça que je veux vous. Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin de la parasha de Baalotecha? Vous êtes obligé, vous savez qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de se souvenir de 10 choses tous les matins après la tefila, de les dire avec sa bouche, d'accord? C'est bien parce qu'en 35 secondes, tu gagnes 10 mitzvot d'Oraïta par jour. En 30 secondes, c'est la Asara Zichronot, d'accord, qu'on doit se souvenir de 10 choses qui se sont passées dans la Torah.
Hein?
Non, il y a 10 choses bien précises écrites dans tous les sidourim, même pas Tahiliyahu à mon avis, c'est écrit à la fin, d'accord? Dans tous les sidourim, c'est écrit une de ces choses-là, c'est ce qu'a fait Myriam. C'est ce qu'a fait Myriam. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Qu'a fait Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, à tel point que la Torah nous a fixé que tous les jours de ta vie, tu as une mitzvah de t'en rappeler.
Elle a fait
comme Amalek. Tous les jours de ta vie, tu vas t'en rappeler.
Elle a parlé sur Moshe avec Aaron.
Ah, elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. Ça, c'est à Hatserot. C'est le deuxième. Davar Acher, Rashi nous dit. Davar Acher, il leur a fait la tochacha sur Myriam. Quel rapport? Il fait la tochacha au Bnei Israël de la faute de Myriam. Donc, pourquoi Rashi dit ça? Rashi dit, c'est ou Korach ou Myriam. Tu fais du zigzag, l'arraché. Cela signifie, Rabotai, qu'il y a un lien entre les deux fautes. Sinon, c'est pas pour rien que maintenant Rashi vient nous dire ici, c'est où ça ou ça. Il y a un lien entre les deux fautes. Quel est le lien entre ces deux fautes? Qu'est-ce qui s'est passé, Behemet, avec Korach, Rabotai? Qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Donc Korach, il vient, il dit au Bnei Israël, il vient devant Moshe Rabbeinu, il rassemble 200, 250 personnes, tous des gens importants du peuple d'Israël, tous des grands rabbanim. Ils arrivent devant Moshe Rabbeinu, on veut plus de toi. On est des communistes. Tous égaux. Ouais, tous égaux. Il y a un État qui va travailler, d'accord ? Tout le monde travaille pour l'État. Tu vas te mettre au-dessus de tout le monde ? Tu vas te mettre au-dessus de tout le monde ? Non ! On veut pas qu'il y ait un rave au-dessus de notre tête. Arrête, Akadosh Baruch Hu, il nous a parlé à nous aussi. Pourquoi ça va être que toi, hein, et que Aaron ? Nous aussi ? Kulam Kedoshim. Nous sommes tous saints. Tu n'es pas plus saint que nous. Et il lui donne plusieurs. Plusieurs patanotes, mais il lui fait plusieurs rimazim. Il lui dit, c'est marqué dans la Torah, hein, qu'il faut des tzitzit. D'accord ? Sur les tzitzit, il faut un fil bleu. Pourquoi est-ce qu'il faut un fil bleu sur les tzitzit ?
Pour le ciel.
Hein ?
Pour rappeler le ciel.
C'est une autre question. En tout cas, dans la Torah, il est marqué qu'il faut un fil bleu. Pourquoi on n'a pas de fil bleu aujourd'hui ? C'est parce qu'on ne sait plus le faire le bleu. On ne sait plus comment le récupérer. Ah, pourquoi il faut un fil bleu ? La Gemara, elle dit, parce que le bleu, ça ressemble à la mer. La mer, elle reflète la couleur du ciel. Et le ciel, il reflète la couleur du Kissa Kavod. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le Kissa Kavod. En tout cas, ça te fait penser à Kadosh Baruch Hu. Le bleu, ça va te faire penser au ciel, donc tu vas penser à Hachem quand tu vois le bleu sur ton tzitzit. D'accord ? Pose une question Korach à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, si maintenant, j'ai un talit qui est tout bleu, est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu ? Arrête mon talit, il est tout bleu. Je pense déjà à Hachem. Je n'ai pas besoin d'un fil bleu qui sort, qu'on va voir devant tout le monde, sur mon tzitzit blanc. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi le fond de la question de Korach ? Il lui pose une deuxième question, il lui dit, c'est marqué qu'il faut une mezouza à la porte d'une maison. Il faut une mezouza. Pourquoi il faut une mezouza ? Pour que quand tu sors et tu rentres de ta maison, tu te rappelles d'Hachem. La même raison que le tzitzit. Il lui dit, mais si dans ma maison, c'est rempli de sifrei Torah, pourquoi maintenant j'aurais besoin, hein, de mettre une mezouza ? Alors, rien que ma maison déjà, c'est, elle me rappelle Hachem. J'ai pas besoin de mettre une mezouza. Qu'est-ce qu'il pose comme question Korach ? C'est quoi ces questions ? Comme tu as dit, mais pas chou, ça n'a rien à voir. On t'a demandé une mitzvah, on t'a pas. D'accord, il y a une raison, mais la mitzvah, elle est là. La question de Korach, c'est comme ça. Si le talit, il est tout bleu, on n'a pas besoin d'un fil qui se distingue des autres. Si la maison elle est remplie de sifrei Torah, j'ai pas besoin d'un petit parchemin avec un schéma Israël écrit dessus à l'entrée de la maison. On n'a pas besoin, on a déjà le sifrei Torah chez nous. On n'a pas besoin de toi, mon cher. Ça, c'est ça qui lui dit Korach. Le talit, il est tout bleu. On est tous Kedoshim. On pense tous à Hachem, du matin au soir. On n'a pas besoin d'un rabbin sur notre tête. On est tous Kedoshim. Qu'est-ce qu'il veut Korach ? Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais tu ne te comprends pas. Tu as un problème ou... Comment tu t'es levé ce matin ? Dis-moi, il y a un problème ou quoi ? Ça ne te suffit pas d'être déjà, hein, de la tribu de Lévi ? Tu fais partie de la tribu de Lévi. Tu fais partie... C'est pas stable. Korach, il a le rôle le plus important parmi les Lévi'im. C'est lui qui porte le Aaron à Kodesh. Ribono Shel Olam, c'est lui qui transporte le Aaron. D'ailleurs, c'est une des ta'anotes que sa femme, elle lui a dit. C'est parce que sa femme, elle lui disait, regarde, Moshe Rabbeinu, lui, il est tranquille. C'est ton cousin. Et toi, il vous a mis comme des chiens, là, que vous portez une armoire du matin au soir. Ouais. Alors que la Gemara, elle dit que le Aaron à Kodesh, l'arche, c'est pas toi qui le portes. C'est le Aaron qui te portait. Il se portait sur toi et au passage, il te soulevait même. Ils n'avaient même pas besoin de forcer. Mais comme sa femme, elle lui a dit ça, il a commencé à dire, ah ouais, c'est vrai, mon cher Benou m'a mis un esclave. Moi aussi, je suis un Lévi. Si tu veux maintenant. Tu es en train de porter le Aaron, tu sais la chance que tu as. Tu fais partie des plus saints du peuple d'Israël. Encore, tu veux, non seulement tu veux le Aaron, mais tu veux la Kehuna, et pire, tu veux Moshe. Dis-moi, tu n'as pas un problème. Il lui rave la chem, Bené Lévi. Ça suffit, Bené Lévi, vous en avez assez. Vous avez tout pris. C'est tout pour vous. Tout le Mikdash, il est à vous. Tout le sanctuaire, il est à vous. Ça ne vous suffit pas? Vous voulez quoi encore? Et il se passe, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous allez prendre la Ktoret, vous allez faire comme ça, et Hachem, il va choisir. Après, il y a... Hachem, il va vous montrer qui c'est qu'il a réellement élu. Bon, tout le monde connaît la fin de l'histoire. D'accord, la fin de l'histoire, elle est que... À la fin, ils ont dit quelque chose de trop sur Moshe Rabbeinu. Quelque chose qui a dépassé toutes les limites de l'entendement. C'est qu'ils ont fait courir le bruit que Moshe Rabbeinu, il a fait Eshatish. Le Issur d'Oraïta de Eshatish. De prendre la femme de son prochain. D'accord ? Ils ont commencé à répandre ça dans le campement, dans le camp. Et là, Moshe Rabbeinu, c'est marqué, il s'est énervé. Et il a prié à Hachem et il leur a dit, les laisse pas gagner. Prouve que c'est faux. Moshe Rabbeinu, il dit, les laisse pas, les laisse pas. Et là, il leur dit, il va aller voir, il leur dit, je vous jure que si vous mourrez d'une manière normale, alors c'est pas moi qu'Hachem il a choisi. Mais vous allez mourir d'une manière différente de tous les autres hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde connaît l'histoire. La terre, elle s'est ouverte. Ils sont tombés vivants et elle s'est refermée. D'accord.
Les 250 femmes rabbins?
Les 250 autres, ils ont brûlé. Ils ont été brûlés. Il y a un feu qui est sorti du Mishkan. Il y a un feu qui est sorti du Mishkan et il a brûlé les 250. Maintenant, et de suite après, les bénis Israël, ils retournent, ils se plaignent. Ils disent quoi? Mais tu tues le peuple juif! Ils disent à Moshe Rabbeinu, tu les tues! Tu tues tout le monde! Et à ce moment-là, il y a encore un feu qui sort qui va dévorer tous les bénis Israël. Et là, c'est Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, prends vite la Ktoret, répands-la devant les bénis Israël que ça arrête la plaie. D'accord? Parce que là, on ne peut plus rien faire. Là, Hachem, il va faire un. Ça y est. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? À la fin, il prend un bâton, il leur dit, vous allez prendre chacune des tribus, elle va prendre son chef de famille, il va prendre un bâton, on va le poser devant Hachem, et le bâton qui fleurira, c'est lui qu'Hachem aura choisi pour être son représentant, et c'est le bâton de Aaron qui va fleurir, et donc c'est Aaron le Kohen Gadol. Et il n'y a plus rien à remettre en cause, et ce bâton-là, il va rester jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit détruit, dans le Kodesh HaKodashim, à côté de l'Arche Sainte fleurit jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit détruit, il sera en fleur. D'accord, ce bâton là donc il va rester plus que 1000 ans fleuri, le bâton à côté du Aaron HaKodesh. Ça fait quoi que le bâton il va fleurir et qu'est-ce qu'il a fleuri? Donc ça, la Torah elle dit, il fait un bourgeon, il fait une fleur et il fait un fruit. De quel fruit on parle? De l'amande. Il a fait une amande, Rachid il dit, c'est la preuve que c'était Aaron. L'amande, c'est la preuve que c'était Aaron. C'est la preuve que c'est Aaron parce que c'était son bâton, pas parce que c'était une amande. Parce que c'était son bâton, c'est tout. Bon, alors on va essayer de comprendre un petit peu, c'est quoi le lien entre cette faute-là et la faute de Myriam? Puisque Rachid nous a dit, c'est lié. Les deux fautes, elles sont complètement liées. C'est quoi le lien? Quel rapport le bâton maintenant? Il y a des choses qui sortent l'homme du monde. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît Pirkei Avot? Il y a trois choses qui sortent l'homme du monde. C'est quoi?
La tava, les honneurs et les dieux.
Tava, c'est dans une. Il y a deux Mishnayot, mais top. Si je me souviens bien, c'est marqué Kavod, Ainara, Veyetserara. Si je me souviens bien. En tout cas, c'est sûr que les trois, ils sont marqués. Il y a aussi la Tava dans une autre. En tout cas, la Kina aussi. Il y a plusieurs Mishnayot. Alors, il y a des choses qui font quitter le monde à l'homme. De quel monde on parle? De celui-là, de monde. Ah, c'est leur Olamaba, on parle. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas te faire. Même dans l'Amazon, on a vu avec Korach. Une de ces choses-là, c'est Ainara. Une de ces choses-là, c'est l'honneur. Une de ces choses-là, c'est la Kina. Une de ces choses-là, c'est la tava. C'est quoi la kina? La jalousie. C'est quoi la hainara? Le mauvais œil. C'est quoi le kavod? Les honneurs. En vérité, c'est tout la même chose. Kavod, hainara, vikina. Et la jalousie, c'est une seule chose. La hainara ne vient que s'il y a de la jalousie.
S'il y a de la jalousie, mais le kavod.
Pourquoi on est jaloux? Parce que j'ai pas de kavod. Tout. Korach, il vient avec une ta'ana. Hein. Nous sommes tous les mêmes. En vérité, sa ta'ana, hein, son argumentation, elle n'est pas que nous sommes tous les mêmes et donc on n'a pas besoin d'un chef. Ça, c'est oui, pour lutter contre Moshe Rabbeinu, pour que le peuple il fasse tomber Moshe Rabbeinu. Mais à la fin, c'est qui prendra la tête? C'est moi. Vous avez cru quoi? Tous les dictateurs, ils commencent comme ça, d'accord? Tous les dirigeants de révolution, dans toute l'histoire de tous les pays, tous les dirigeants des révolutions ont prétendu, celui qui dirige se nomme lui-même à la tête du peuple, donc on va le faire tomber. Une fois qu'il est tombé, qu'est-ce qui se passe? C'est lui-même qui devient dictateur. D'accord? Ils ont tué les rois en France à cause des privilèges, mais après, combien ils ont guillotiné de gens parce que M. Robespierre, il avait décidé. D'accord. Pourtant, tu t'es battu contre ça. Je comprends pas, mais tu fais tout l'inverse. Mais oui, c'est exactement ça. Parce que jamais quelqu'un il va venir se rebeller contre le pouvoir s'il n'a pas envie de prendre le pouvoir. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Si c'est un mouvement qui part du peuple, alors peut-être c'est une chose, mais s'il y a une tête à ce mouvement, la tête, c'est lui qui veut être au pouvoir. Alors il prétend, il n'y a personne qui a une tête, mais tous les gouvernements communistes de l'humanité, tous les gouvernements communistes qu'il y a eu, d'accord, sans politique, mais ils ont tous été dirigés par des pourris. Staline, c'était le plus grand des communistes. Le peuple, tout le monde est égaux. C'est bizarre, lui, il n'était pas l'égal du peuple. Et c'est bizarre que dans le peuple aussi, il n'y avait pas que des égaux. Nous, par exemple, on était dans le goulag. Ouais. Tous les grands qui ont dit le peuple est égal, tout le monde a le même statut. Non. Rabotai, c'est marqué dans la Torah, dans les Pirkei Avot. Ezeo Chacham, c'est qui le sage? Amakir et Mekomo. Celui qui connaît sa place. Celui qui connaît sa place. Korah, il a dit, nous avons tous la place de Moshe. Ou en tout cas, Moshe Rabbeinu, il n'est pas à sa place, on a tous la même part. Ça, c'est aller vers un mur. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Aaron. Et Aaron, ce n'est pas Korah. Et Korah, il ne sera jamais Aaron. Et Israël, il ne sera jamais Cohen. Il sera Israël. Et un Lévi, il ne sera jamais non plus Israël. Il sera un Lévi. Il sera un Lévi. À tel point que nos sages nous ont dit, celui qui se rebelle contre la Kehuna, et comme ça le Shulchan Aruch il a été posek, d'accord, comme ça là, c'est décrété par la Halakha, celui qui vient dire pourquoi les Kohen ils ont autant de privilèges, d'accord, c'est comme si qu'il met un coup de pied à la Shrina, Chas v'chalila. Comme s'il met un coup de pied à la Shrina. Et combien on entend dire des fois des blagues? Alors c'est par blague. Mais même la blague, le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut faire très attention parce que sinon tu es la même chose que Korah. Ah, ce Kohen, il nous prend toutes les aliotes. Combien on entend dire ça dans les Batei Midrashot et dans les synagogues? Ah, vas-y maintenant, il monte, il va prendre deux aliotes parce qu'il n'y a pas de Lévi en plus. Donc celui-là, il va monter deux fois. Maintenant, il n'y a que trois aliotes. Qui sortent? Qui sortent comme ça? On fait trois aliotes pour les Juifs, pour le reste du peuple d'Israël. Pourquoi que le Kohen? Non seulement il monte en premier, mais en plus il monte deux fois. Pourquoi que le Kohen? Quelqu'un qui dit une chose pareille, c'est Korah. Comme ça, il dit Shulchan Aruch noir sur blanc. Noir sur blanc. D'accord. Myriam Rabotai, elle a dit exactement la même chose que Korah. Sauf qu'elle n'a pas eu l'intention de faire du mal. elle a eu l'intention de faire du bien vraiment. Elle voulait ni prendre aucun pouvoir ni rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Est-ce que vous savez pourquoi Myriam a parlé contre Moshe Rabbeinu? Parce qu'il a divorcé sa femme. C'est que Moshe Rabbeinu, il était marié avec Tzipora. Et Tzipora, Moshe Rabbeinu, il a divorcé. Il a donné un guet. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, nos sages nous disent que comme Moshe Rabbeinu, il parlait tellement, il était tellement, Hachem lui parlait face à face, d'accord, qu'il fallait qu'il soit tellement kadosh que même des fois, c'était possible qu'Hachem il vienne lui parler à un moment où Moshe Rabbeinu, il ne peut pas lui parler parce qu'il est en train de s'unir avec sa femme. Et il ne peut pas dire maintenant à Hachem, Hake Dakar. Ça ne se fait pas, d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire, Moshe Rabbeinu? De divorcer sa femme. Maintenant, Myriam, est-ce que vous savez que c'est elle qui a sauvé le peuple d'Israël en Égypte? Son père, il a divorcé de sa mère. Oui. Parce que Pharaon, il tuait tous les garçons qui naissaient. Tout nouveau-né garçon, on le tuait. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Amram, le père de Myriam et le père de Moshe Rabbeinu? Il a dit, si c'est pour avoir des enfants, pour que Pharaon il les jette dans le Nil, c'est bon, on n'en fait plus, donc on divorce. Et tout le peuple d'Israël a divorcé. Il n'y a plus d'enfants dans le peuple d'Israël. Préfère nous-mêmes terminer, plutôt que on va faire des enfants pour les tuer. Myriam, quand elle a vu ça, elle est allée voir son père, elle lui a dit, papa, Pharaon il tue les hommes, toi tu tues les filles. D'accord, Pharaon, il va tuer les garçons, mais les filles, elles vont rester vivantes. Et si la fille, elle est vivante, elle peut avoir un enfant. Et si elle va avoir un enfant, il sera juif. Et on a perpétué le peuple d'Israël. Mais toi, tu tues même les filles en refusant d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Amram, qui était le Gdolador? Il a réépousé Yocheved, et tout le peuple d'Israël a réépousé ses femmes. Et comme ça, est né Moshe Rabbeinu. De là est né Moshe Rabbeinu, de cette union-là, quand il a repris Yocheved, est né Moshe Rabbeinu. Donc qui est-ce qui a sauvé le peuple d'Israël? C'est Myriam. En disant à son père, reprends ta femme, t'es pire que Pharaon. T'es pire que Pharaon. Donc Myriam, la mitzvah de Piria Urvia, la mitzvah de se reproduire, la mitzvah d'avoir une femme et de reproduire le peuple d'Israël, c'était pour elle son fer de lance, entre guillemets. Quand elle apprend que son frère, Moshe Rabbeinu, il a divorcé parce qu'il est trop kadosh, là, elle comprend plus. Elle comprend plus. Elle dit, c'est contraire à la Torah. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Aaron, elle dit quoi? Arakar Bemoshe diber Hashem. Aleo Gambanu diber Vaishma Hashem. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Hachem, il a parlé qu'à Moshe? À nous aussi, il a parlé. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Même chose que Korach ou quoi? Elle dit quoi, Myriam? Ça veut dire quoi, ce qu'elle dit?
Elle dit qu'eux aussi, ils ont eu la présence divine sur eux et qu'ils n'ont pas divorcé, qu'ils eux aussi sont kadosh.
Myriam, elle est venue dire ici une chose. Elle est venue dire, je ne comprends pas mon frère. Elle est venue dire à Aaron. À nous aussi, Hachem, il a parlé et on n'a pas eu besoin de divorcer. Pourquoi lui, il a besoin de divorcer? C'est pas compréhensible, c'est pas normal, il y a un problème. Arrête, même nous, Hachem, il nous parle. Et on n'a pas besoin de divorcer. Donc qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? C'est pas normal. À ce moment-là, c'est marqué, Hachem, il a entendu. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Hachem, il leur fait la réprime. D'un coup, il s'adresse aux trois en même temps. Moshe, Aaron et Myriam. Les trois, ils entendent Hachem qui leur parle en même temps. Ils ne sont pas au même endroit, les trois. Et il leur dit, vous venez de suite dans le Mishkan, tous les trois. À ce moment-là, elle descend sur le Mishkan et elle dit à Aaron et à Myriam, avancez vers moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il leur dit?
très mal.
Shimuna Devaraï, écoutez bien ma parole. Comme ça, il dit Hachem à Myriam et à Aaron. Im yeniv yachem Hachem bamara elav itvada bahalom adaberbo. Les autres prophètes, d'accord, votre prophétie à vous, comment je me présente à vous? Par vision. Vous voyez des choses, d'accord? Ou dans un rêve. Je me présente à vous dans un rêve. Lochen avdi Moshe. Mon serviteur Moshe, c'est pas comme ça. Bechol betin et Emanu. Dans toute ma maison, j'ai confiance en lui. Ça veut dire quoi? Il est digne de confiance, il est fidèle. PLP et Adaberbo. Ou Mar'e velo Behirot. Ou Tmunat Hashem Yabit. Ou Madoua lo Yeretem le Daber Be'avdi Be'Moshe. Il leur dit quoi? Il leur dit bouche à bouche, je parle avec lui. Il me voit à moi et pas une image. Pas, il n'est pas en train de voir ce qui va se passer. Il me voit moi. Et il est debout, lui. On parle d'homme à homme. Vous, vous ne me parlez pas. Moi, je me présente à vous quand vous êtes par terre en train de trembler parce que vous êtes en transe. D'accord? C'est marqué comment les prophètes, ils arrivaient à une prophétie, ils tombaient en transe. Tellement ils étaient en prophétie. Il y en a qui priaient pour ne pas être prophète. Pour ne pas arriver à ça, tellement ça leur faisait peur. Ils étaient à deux doigts de mourir. Lui, il est debout. On parle face à face. Comme un homme avec son frère. Et toi, et vous, il me voit. Et vous n'avez pas eu crainte de parler contre mon serviteur Moshe? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, à Myriam et à Aaron? Et de suite, Myriam, elle a été frappée de la lèpre parce qu'elle a parlé la Shonara. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? À Kadosh Baruch Hu, il dit à Myriam et à Aaron, vous n'avez pas compris quelque chose. Chacun sa place sur terre. Vous avez cru que vous étiez comme Moshe Rabbeinu pour pouvoir dire, on ne comprend pas Moshe, pourquoi il fait une chose pareille? Nous aussi, Hachem, il nous parle. Mais je t'ai jamais parlé comme j'ai parlé à Moshe Rabbeinu. Toi, j'attends que tu sois deux doigts mort, d'accord, presque mort, tu es dans ton lit en train de rêver. Je viens me présenter à toi à travers des anges, des trucs comme ça. Lui, je me présente directement à lui. Et tu n'as pas eu peur de parler contre lui? C'est que tu n'as pas compris qui il était. Tu n'as pas compris elle était où ta place. Si tu n'as pas compris elle était où ta place, tu marches sur la place de l'autre. C'est ça le lien entre Korah et Myriam. C'est pas Hasve Halila que Myriam elle a fait la même faute que Korah. Myriam, elle était vraiment l'Eshem Shamayim. Elle voulait comprendre, mais elle a parlé. Fallait pas parler. Va demander à ton frère directement. Va demander à Moshe Rabbeinu directement. Tu dis, écoute, Mehila Kvodarav, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Arayen Mitzvah Tase Doraita, Piria Orvia. Tu dois appliquer la mitzvah d'avoir des enfants. Tu peux pas divorcer, même s'il a déjà fait. Il a eu deux garçons, qui t'a dit qu'il a eu des filles? Donc tu dois, même s'il a déjà fait, qui t'a dit qu'une fois que tu l'as fait, tu dois t'arrêter de la faire? C'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah, avec le limud de la Torah. Donc qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Même si Myriam, elle était les Shem Shamaï, mais pas comme on a entendu, parce qu'elle a dit pourquoi Moshe il prend la grosse tête? C'est pas Korah, Myriam. Korah, il est venu avec une ta'ana pareille. Mais Myriam, non. Mais quand même, la source de la faute, elle est la même. Tu n'as pas compris, elle était où ta place et elle était où la sienne. Tu n'as pas compris. Si tu ne comprends pas, elle est où ta place, tu vas forcément vouloir aller sur la place de l'autre. Aller prendre la place de l'autre. Et si tu veux prendre la place de l'autre, il y a un problème. Le monde, il ne peut pas aller ensemble. Comme ça, il répond Moshe Rabbeinu à Korah. Et c'est ça le signe des fleurs sur le bâton. Qu'est-ce qui s'est passé sur le bâton? Le bâton s'est marqué et ils nous ont dit, la Torah a dit, il a fait un bourgeon, puis il a fleuri, puis il est sorti un fruit. En une nuit. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a combien de choses?
Trois.
Il y a trois?
Le bâton, la fleur, la menthe.
Le bâton? Non,
le bâton,
non, le bourgeon,
le bourgeon, la fleur,
la fleur, l'amande. Pourquoi la Torah nous dit il a bourgeonné, puis il a fleuri, puis il est sorti un fruit.
Est-ce qu'il s'est développé doucement?
Alors il n'y a plus qu'une chose.
Il y a
un ou trois? Il y a un ou trois? Il y a quoi? Adrabota, il y a trois. Il y avait un bourgeon, il y avait une fleur et il y avait un fruit. Et ça, c'est le signe. Il y a trois Kehilot dans le peuple d'Israël. Il y a Israël, il y a Lévi et il y a Cohen. Et toi, Korar, tu ne peux pas venir prendre la place de l'amande. Tu es une fleur. Korar, comment c'est marqué? Tzadik, Katamar, Ifrah. Lorsque un tzadik, comme un palmier, il fleurira. D'accord? Ça fait tes votes, Korar. Les fins de chaque mot, ça donne Korar. Tzadik, le tzadik, il fleurira comme le palmier. Korar, le tzadik, il fleurira comme le palmier. Korar, c'était pas un rachat au fond. À la fin, il est tombé dans une avéra très grave. Mais au fond, c'est un tzadik. Au fond, il n'a pas compris. Nous aussi, on veut la même place. Nous aussi, on veut être l'élite du peuple d'Israël. Hachem, il lui dit, tu n'es qu'une fleur, tu n'es pas le fruit encore. Le fruit, c'est Aaron, chacun sa place. Si maintenant tu vas sur la frontière de l'autre, tu vas détruire le peuple d'Israël. Quand on veut chercher à prendre la place de l'autre, Rabotai, on crée une mahloket. Si on crée une mahloket, on détruit. La mahloket est complètement néfaste. La dispute est complètement néfaste. On ne peut pas venir dans la chambre de quelqu'un, d'accord, lui prendre sa place et compter qu'il va se taire. Ça ne veut rien dire. D'accord? À moins qu'il soit tzadique. Mais bon. Et même s'il est tzadique, si maintenant la discussion elle est sur de la Torah, il n'y aura pas de tzadique ou pas de tzadique. Il n'y a pas de « je suis tzadique alors je te laisse prendre la place ». Si tu te trompes, je ne te laisse pas. Il n'y a pas de tzadik ou pas. Mais forcément, si tu veux prendre la place, tu vas arriver dans une marloquette. Si tu n'as pas compris, elle était où ta place. Et pourquoi tu n'as pas compris? Parce que tu as eu de la kina. Pourtant, moi, je vous pose une question, c'est marqué quoi? Kina tsofrim, tarve chokhma. Ça veut dire quoi? La jalousie des étudiants en Torah, ça augmente la sagesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Elle nous dit, sois jaloux. Tu veux devenir un chacham? Il faut que tu sois jaloux. Il faut que tu sois jaloux. Tu n'as pas le droit de dire, non, Mseder, c'est bon, moi je ne veux pas devenir un Gdol Ador. Moi, je ne veux pas. D'accord, moi, c'est bon, j'ai ma Torah, ça va, mon petit Dafayomi tous les jours. C'est bon, machin, tatati, tatata. Ah bon, le voisin, il est plus fort que moi en Torah, mais je m'en fiche. Assour, tu dois être jaloux, pas de lui, de sa Torah. Tu dois, oui, être jaloux. Tu dois vouloir encore plus de Torah. Mais en sachant une chose, ça ne veut pas dire que tu dois prendre sa place. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre sa place. Tu dois être jaloux, pourquoi? Parce que du fait que tu vas vouloir la même Torah que lui, tu vas te battre pour grandir. Mais ne demande pas à vouloir sa chaise. Ça veut rien dire. Tu peux pas demander, d'accord? Quand tu as 25 ans, tu as fait tchouva. Tu as 25 ans, tu as fait tchouva. Tu sors de Paris, la bouse de l'humanité, Pigalle, d'accord? Tu sors de là-bas maintenant, tu te retrouves à Yeshua Tchosef, tu veux prendre la place du Rosh Yeshiva. Vas-y, ça fait 40 ans qu'il étudie la Torah. Tu vas mourir comme Korar. Pourquoi? Parce que tu détruis le monde, tu n'as pas compris. Je comprends pas pourquoi le Rosh Yeshiva m'a dit de faire comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, j'ai décidé, je ne fais pas comme ça. Dis-moi, le Rosh Yeshiva ici, c'est lui le patron. Ici, c'est mon cher Benou, il s'appelle Rav Shaya. D'accord? C'est lui le patron. C'est lui le patron. S'il te dit, dans la Torah, tu dois faire comme ça, tu ne viens pas lui dire, ah, mais moi, j'ai vu, c'est marqué autrement là-bas. Tu crois qu'il n'a pas vu, lui? S'il t'a dit de ne pas faire comme ça, c'est qu'il pense pas que c'est comme ça. Donc tu fais pas comme ça. Même si toi, ton rave, c'est pas lui. C'est pas ton problème à toi. C'est pas ton problème à toi. Ou alors, va dans une autre yeshiva. Va-t'en, va ailleurs. La même chose. Le type, il arrive, il a fait tchouva, il arrive, machin. Je veux devenir rave, va dire. Tavo alecha bracha. Je te souhaite que tu deviennes rave, va dire. On en a vu, il y a eu Rabbi Akiva. Il est devenu Rabbi Akiva, il a fait tchouva à 40 ans. Il est devenu Rabbi Akiva, on en a vu. Un deuxième. Rabbi Eliezer ben Urkenos. Il a fait tchouva à 28 ans, il est devenu Rabbi Eliezer Agadol. D'accord ? Celui qui s'est marqué que vous savez que Moshe Rabbeinu avait sur son visage des rayons de lumière qui sortaient de son visage. C'est marqué que Rabbi Eliezer ben Urkenos, les rayons de lumière de Moshe Rabbeinu lui sont venus sur lui. D'accord ? Il a fait tchouva à 28 ans, c'est un Amaret. Son père, il voulait pas qu'il étudie la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il lui faisait faire? Il lui faisait faire la harisha. Il lui faisait labourer la terre, du matin au soir. Comme ça, tu ne vas pas étudier la Torah. D'accord? Quand il a dit, je vais aller étudier la Torah, il lui a dit, non, tu ne vas pas. Alors, il s'est assis. À 28 ans, hein, il a écouté son père, il a demandé à son père l'autorisation d'aller étudier. Son père, il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis par terre, il s'est mis à pleurer. Et pourquoi tu pleures? Je vais étudier la Torah. Et toi, tu m'empêches? Il lui a dit, bon, tu veux plus faire laboureur? D'accord, on va te mettre à faire un autre métier. Il l'a amené à l'atelier pour faire un autre métier, peut-être un peu plus prestigieux, ouais. Il s'est assis par terre, il s'est mis à pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux étudier la Torah. Alors, son père, il a dit, si tu vas étudier la Torah, je te déshérite. D'accord, je veux. Il est parti. Il est parti jusqu'à Yerushalayim. Il est arrivé devant le Beit Hamidrash de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a commencé à lui enseigner la Torah et il est devenu Rabbi Eliezer Hagadol, le grand Rabbi Eliezer. D'accord ? Et quand son père il est venu pour lui dire qu'il déshéritait, quelques années plus tard, il a vu, il est arrivé au Beit HaMidrash, il était en train de faire une drasha. Et Rabbi Yochanan, il était en train d'écouter la drasha, Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'un coup, il a vu son père entrer, il s'est levé devant lui. Et vient, il le salue. Ah, Kvod Arav ! Machin, tout, venez vous asseoir. Onkelos, il lui dit, Orkelos, il lui dit, tu veux quoi? Il lui dit, tu es le père. Tu sais de qui tu es le père? Forcément, c'est venu en héritage, il y a quelque chose. Et bon, il ne comprenait pas. Il n'a pas reconnu que c'était son fils qui était en train de parler. Mistama, il avait la barbe, le chapeau, on reconnaît pas après les péotes, on reconnaît vrai. Donc il a pas reconnu que c'était son fils qui parlait. Il a entendu parler, il a dit, c'est qui celui-là qui parle?
C'est ton fils.
C'est qui celui-là qui parle? Ils lui ont dit, c'est ton fils. Et il s'est mis à pleurer, machin et tout. Il va voir son fils, il lui dit, mon fils, je voulais te déshériter parce que tes frères, ils m'ont monté la tête. Pour que je te déshérite parce que tu travaillais plus, tu rapportais rien au pays. Parce que tu travaillais pas, tu es un parasite. Donc ils m'ont demandé de te déshériter. Ouais, maintenant je vais les déshériter à eux et je te donne tout à toi. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Eliezer? Il lui dit, si j'avais demandé de l'or, Hachem il m'aurait donné. Si j'avais demandé des terres, Hachem il m'aurait donné. Garde tout ce que tu as. Moi je veux que la Torah, je veux rien d'autre. Et c'était Rabbi Eliezer Hagadol. D'accord, on a vu deux, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. On n'a pas vu des 50 millions qui sont devenus des Rabbi Akiva quand ils ont fait tchouva à 28 ans. Surtout quand ils ont fait tchouva de Pigalle. Ouais. Quand ils ont fait tchouva, je sais pas moi, en boîte bizarre. Il y a des salles bizarres derrière. On parle pas de ça, d'accord. On parle de gens qui ont fait tchouva, d'accord, mais... Ils avaient la haine des Chachamim, on te dit, ils voulaient les mordre et leur casser les os. Mais on te dit pas que maintenant, ils étaient je sais pas où. Et même ceux qui étaient je sais pas où. Mais bon, il faut quand même connaître sa place. Ça veut dire, il y en a des fois, il y en a une fois, il vient me voir et me dit, je comprends pas. Vous voyez ma Chavruta de l'après-midi, Nachman?
Oui.
Ça fait même pas 2 ans qu'il étudie la Torah. Ok. En 2 ans, il est parti chez Rav Danino. Il y en a un, il vient, il me fait... Dis-moi, Il étudie bien, Ahmed. Je dis, qu'est-ce qu'il y a à toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu le matches guillard ici? Il me dit, non. Parce qu'il est plus jeune que moi. Et moi, ça fait au moins 4 ans que j'étudie. Et il est plus fort que moi. Je lui dis, eh ben bénis-le. Il me dit, mais non. Je veux pas le voir comme ça. Je veux moi être à sa place. Je dis, l'Aziz, qu'est-ce que je devrais dire moi? Ça fait 12 ans que j'étudie la Torah et c'est ma Havruta. Tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi chez moi? C'est-à-dire, chacun sa place. D'accord, sois jaloux et envie d'étudier aussi bien que lui. Mais ne sois pas jaloux de sa place. Moi aussi, je veux pouvoir, il me dit, je veux pouvoir moi aussi être pas d'accord avec Rav Danino. Je lui ai dit, mais Aziz, tu as vu, j'ai pas voulu être méchant, mais tu as vu le cerveau que tu as? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu n'as pas les mêmes ustensiles. Tu n'as pas les mêmes ustensiles. Tu n'as pas les mêmes, tu n'as pas les mêmes capacités. Lui en 2 ans, moi en 2 ans, je ne serais jamais arrivé chez Rav Danino. J'ai mis 10 ans pour y arriver. Lui, il a mis 2 ans. Ok, mais il a un cerveau, il est comme ça. Il n'a pas le même ustensile que toi. On ne t'a pas demandé d'être Rav Ovadia. Rav Ovadia, il est en train de lire une paracha. Il est en train de lire une page, il fait comme ça. Connais par cœur. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux lutter contre ça? C'est pas possible, tu peux pas te battre. C'est pas possible. Toi, tu viens face à Moshe Rabbeinu, tu lui dis, on est chavé. Nous, si on veut ta place. Tu n'as pas compris quelque chose? Chacun sa place. C'est marqué. Pourtant, vous allez me dire, ah, c'est marqué qu'on doit tous arriver à la fin de notre vie à être Moshe Rabbeinu. C'est marqué que chaque juif, il doit se dire, moi aussi, je peux être Moshe Rabbeinu. Moi aussi, je peux être Moshe Rabbeinu. Tous les jours, tu dois te dire ça. Moi aussi, je peux devenir Moshe Rabbeinu. Mais d'après ce que je dis, c'est complètement l'inverse. Tu ne pourras jamais devenir Moshe Rabbeinu. Et en plus, c'est complètement stupide de dire une chose pareille. Parce que la Torah elle-même, elle dit qu'il n'y aura jamais comme Moshe Rabbeinu. Donc comment tu peux espérer être comme Moshe Rabbeinu? Alors, ou nos sages nous induisent en erreur, ou il faut expliquer ce qui se passe ici. C'est quoi le pshat Rabotai? Vous savez, c'est quoi le niveau de Moshe Rabbeinu un petit peu? C'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il est niftar, la Shrina, elle est venue le prendre. Ouais. Par un baiser. Elle a embrassé et sa neshama, elle est partie. Non. La neshama de Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans le Midrash, elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas quitter le corps de Moshe Rabbeinu. La Shrina lui dit, nous 120 ans, ça y est, c'est l'anniversaire, yalla. Yalla, c'est fini. À quoi ça sert, il reste vivant, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël de toute façon. Donc il faut qu'il meure ici, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Sors de là. Qu'est-ce qu'elle lui répond, la Neshama de Moshe Rabbeinu? Elle lui dit, je veux pas sortir. Parce que je suis mieux là qu'au Gan Eden. Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans la Mishnah, hein? Al kochacha ta nolad, va al kochacha ta met. Tout le monde pose la question. Al kochacha ta met. Contre ton gré tu nais et contre ton gré tu meurs. Contre ton gré tu nais, oui, parce que ta neshama elle veut pas venir chez toi. C'est ce qui va se passer. Elle n'a pas envie de descendre. Donc contre ton gré on te fait naître. Et contre ton gré tu vas mourir. Mais comment contre mon gré je vais mourir? Allez, c'est marqué que la Neshama, dès que Hachem y vient, elle s'en va. Maintenant, qu'est-ce qui fait la ça veut dire quoi le Kochatamet? La Neshama, elle s'en va de suite. elle s'en va de suite. Alors, ou toi, tu veux pas mourir, tu veux rester là, d'accord, pour encore un peu. Vous avez des types, ils meurent, ils crient « Maman !» Pourquoi tu cries « Maman » la vie? Parce qu'il veut tout recommencer. Il s'est aperçu au moment où il allait mourir, que donc il veut renaître. Donc il crie « Maman, maman !» C'est trop tard, l'Aziz. « Maman, tu l'as crié il y a 120 ans. » Maintenant, il fallait crier « Mes enfants, je vous bénis. Voilà, je m'en vais. Je sais que j'ai laissé un héritage sur terre. » Mais toi, tu as laissé quoi? Des petits démons que tu as créés dans les toilettes. D'accord? Donc, tu n'as rien laissé du tout. À part des monstres. Ouais? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mon cher Abenou Saneshama, elle a dit, moi je reste. Pourquoi? Je me suis tellement bien accompli dans ce corps que le corps et la Neshama de mon cher Abenou ne font plus qu'un. Nous, c'est marqué que notre Neshama, elle va vouloir être jugée sans le corps. Et qu'elle va dire, c'est pas moi qui ai fauté. Si tu m'avais pas mis dans le corps, j'aurais jamais fauté. Et le corps, il va dire, si tu m'avais pas donné une Neshama, moi, mon corps, il peut rien faire sans Neshama. D'accord? La preuve, quand elle s'en va, je suis dans la terre. Donc je peux rien faire. Donc chacun il va se renvoyer la balle. Le corps et la neshama de Moshe Rabbeinu disaient nous on est très bien. Vas-y, juge comme ça. Il n'y a aucun problème, tu peux juger. Chavod. On n'a aucun problème. On veut pas partir chacun de son côté. Les Chachamim disent que Moshe Rabbeinu il était presque à la madriga d'un ange. À tel point qu'il est obligé de se mettre un voile parce que sinon si on le voyait on pouvait brûler. Tellement il était puissant. Donc maintenant, c'est quoi arriver à la madriga de Moshe Rabbeinu Rabotai? C'est quoi? Chaque juif, il doit se dire, je dois être Moshe Rabbeinu. C'est que tu dois t'accomplir avec ton potentiel, comme Moshe Rabbeinu avec son potentiel. Sa neshama, elle s'accomplit dans Moshe Rabbeinu, mais avec son potentiel à lui. On ne t'a pas demandé de vouloir le potentiel de Moshe Rabbeinu. Si tu veux le potentiel de Moshe Rabbeinu, tu vas faire une dépression nerveuse parce que tu n'y arriveras jamais. Tu vas tomber dans le dikaon. Et si tu tombes dans le dikaon, tu vas faire des averot et tu vas devenir un machin. Mais si tu sais c'est quoi ton potentiel, alors c'est quoi ton but? C'est d'appliquer ton potentiel avec ce qu'on t'a donné. Et à ce moment-là, ta neshama à toi aussi, elle dira, moi je me suis complètement accompli dans ce corps. Tel que tu me l'as donné, je l'accomplis. Je l'ai, comment on dit, rentabilisé à 100%. 100% j'ai rentabilisé l'affaire. Même si je me suis trompé, mon cher Benou aussi s'est trompé. Mon cher Benou aussi, il a été puni. À son niveau. Mais sa neshama, elle était complètement accomplie dans le corps de mon cher Benou. Complètement. Elle a dit à Hachem, moi je suis complètement là, j'ai pas besoin qu'on nous sépare. Hachem lui dit, Mikol Makom, tu viens avec moi, c'est tout. Aucun problème, je suis d'accord, mais c'est comme ça le monde. En malasse. D'accord? Mais maintenant, nous, donc c'est quoi devenir Moshe Rabbeinu? C'est pas que tu te dis, je veux la place de Moshe Rabbeinu. Je veux devenir le plus grand des prophètes de toute l'humanité, de tous les temps. Ça veut absolument rien dire. Quelqu'un qui aurait un rêve comme ça, il faut bien lui mettre dans la tête, c'est un illuminé. Il est complètement illuminé. Quelqu'un qui arrive ici, il veut se dire, je peux devenir le Gdol Hador, d'accord? Il est illuminé. Quand il sort de PlayStation et de son pétard, d'accord, faut arrêter un petit peu. Faut arrêter un petit. Tu t'es brûlé la moitié du cerveau. Tu peux pas maintenant devenir le Gdol Hador. Faut être clair. Maintenant, Chas v'Shalom, ne comprenez pas que je méprise. Chas v'Hadila. Avec pourquoi on s'est réveillé que maintenant? Parce qu'Hachem il attendait un autre travail. Pourquoi quelqu'un il est né dans une famille pas religieuse? D'accord, il avait son libre arbitre depuis 13 ans. Ouais, c'est très drôle. J'ai un libre arbitre depuis 13 ans. Merci beaucoup. J'ai grandi avec Christine à l'école. D'accord. On lui a fait manger du porc à Kippour. On lui a fait pas que grandir avec Christine. On lui a fait danser avec Christine. Et pas que danser, parce qu'après la danse, il y a la conclusion de la danse. D'accord. Et maintenant, tu me dis, j'avais mon libre arbitre. De quoi tu parles? Oui, tu avais un libre arbitre. Mais si Hachem il t'a mis là, c'est parce qu'il voulait aussi que tu vives ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait que tu aies certains ustensiles, tu aies certains kélim, pour pouvoir faire ta Torah à toi qui t'es propre, pour laquelle tu es venu ici. Et si tu n'as pas compris ça, alors tu vas toujours vouloir ce qu'il y a chez l'autre. Et toi, tu vas te détruire. Et si tu te détruis, tu détruis le monde au passage. Parce que forcément, quand tu n'as pas compris aller où ta place, tu vas forcément détruire des gens. Parce que tu risques même de détruire tes enfants. Parce que si tu pensais que tu pouvais devenir le Gdolador et rester à la maison comme ça, 26 heures par 24, en train d'étudier, alors que ton fils il est en train de te demander « Papa, est-ce que tu peux me passer le ballon ?» Et tu lui dis « C'est du khol ! Assour ! » Toi, peut-être, tu veux devenir le Gdolador, mais ton fils, il n'a pas l'intention de le devenir forcément. Mais comme tu n'as absolument pas le potentiel de le devenir, ton fils, il voit très bien que tu es dans un rêve. Donc, tu es en train de le massacrer. Et si tu le massacres, tu massacres toute ta descendance. Parce que si tu as massacré ton fils, il risque de ne pas être marié avec une Bat Israël. Et avec sa femme, c'est la même chose. Si tu as cru que tu es le Gdolador, et que tu as une femme qui, a priori, elle n'est pas adaptée au Gdolador. Arrête, c'est marqué Ishtoke Gufo. Hein. La femme, c'est comme ton corps. Donc, tu as ce que tu dois avoir. Pas plus, pas moins. Donc, si tu as eu ça, tu sais ce que tu es. Crois pas qu'elle s'est trompée. Non, non, t'as donné la bonne, vas-y. C'est toi, tu t'es trompé, tu es dans un rêve. Et tu lui dis, non, c'est pas grave, tu as besoin de moi, c'est pas grave, j'étudie. Steigen, je vais devenir le Gdolador. Ça va. Chacun sa place. Et ça, Korach, il n'a pas compris. Que chacun sa place. Et les fleurs, le bourgeon, la fleur et le fruit viennent prouver ça. Chacun a sa place. Chacun a sa place. D'accord, un bourgeon, il peut donner un fruit. Il n'a rien à mettre, un bourgeon, il peut donner un fruit. Mais toi, tu n'as pas compris que tu étais que le bourgeon. Tu pourras donner des fruits, peut-être, on ne sait pas. Tu ne pourras jamais devenir, maintenant, Aaron HaKohen. Chacun sa place. Et si tu veux prendre la place de l'autre, tu détruis tout. Tu détruis tout, Rabotai. La Chéen, la Torah, elle est venue nous expliquer. On doit être jaloux de la Torah des autres, oui. Mais pas maintenant être jaloux avec une mesquinerie de voir l'autre en dessous de toi. Pas de vouloir prendre la place de l'autre. Être jaloux de son niveau, de sa Torah, pour pouvoir avancer encore plus. Une jalousie positive. Et d'ailleurs, c'est la seule jalousie qui est autorisée. Être jaloux de la Cadillac ou quoi, c'est zéro. C'est zéro. Ça amène le Aïnara de suite. Ça amène le Kavod. Ça amène la fin. C'est terminé. Tu sors du monde. Tu commences à réfléchir comme ça, tu sors du monde. Ah, pourquoi lui il a la belle maison? Pourquoi lui il a pas la... On parle pas de ça là. Même Korach il était pas à ce niveau, Rabotai. On parle pas d'une jalousie maintenant de que Gégé il a des Reebok et lui il a des Nike et lui il a des machins. On parle pas de ça. Ça c'est chacun sa place, d'accord? Et chacun sa place aussi. Si tu as oui un potentiel, tu n'as pas le droit de te comporter comme l'autre qui a pas le potentiel non plus. Si tu as oui le potentiel de devenir le Gdolador, tu n'as pas le droit de te comporter comme le Bachor Yeshiva qui fout rien. Pas qu'il fout rien, mais qui fait tout ce qu'il peut et qui n'arrive pas à grand chose. Donc lui, il a besoin de 2 heures de vacances par jour. D'accord? Mais si toi, tu as le potentiel d'étudier 8 heures et que parce que tu vois ton copain de chambre, que lui, le Rosh Yeshiva, il lui a autorisé de ne pas venir au Seder parce que lui, il a le droit, parce qu'on sait très bien que sinon, il va dans un mur. Parce que nous, on l'a vu son potentiel. Et peut-être il a un potentiel plus grand. Mais maintenant, il ne l'a pas. Maintenant, il n'est pas capable de l'appliquer, son potentiel. Mais toi, on sait que tu es capable de l'appliquer. Quoi, tu vas être jaloux de l'autre? Ah, moi aussi, je prends 2 heures de vacances. Alors, tu n'as rien compris. Tu es à côté de tes pompes. Si tu es pilote d'avion, tu ne vas pas dire « je veux une 2 chevaux pour me déplacer ». Ça ne veut rien dire. Je vais faire le tour du monde en 2 chevaux. Ou alors, tu as un deb. Ou alors, tu as un deb. Le type, il a une Ferrari. Et... Non, je préfère aller à pied. Abseder, ça marche à pied. Tes enfants, ils marcheront peut-être plus. Donc maintenant, chacun doit connaître sa place. Et celui qui est haut, et celui qui est plus bas. Et jamais vouloir la place de l'autre, Hasver Khalila. Sinon, comme il dit le Ben Ishra, il explique plus à l'Iba du Sod un petit peu. Il dit, c'est la même chose dans les mondes Je sais pas ce que ça veut dire, mais il dit, tu peux pas venir mettre du chesed quand c'est le djinn. Parce que sinon, hein, tu es en train de détruire le monde. Parce que tu fais passer le chesed sur le djinn et chacun sa place. C'est pour ça qu'on peut pas, d'après le Ben Ishraï, d'accord, on peut pas maintenant se couper les cheveux la nuit. Ou on peut pas lire du kra la nuit. Pourquoi? Parce que tout ça c'est quoi? C'est la midat hadin aujourd'hui. Et toi tu peux pas maintenant venir endommager avec ton chesed dans la midat hadin. Il dit par exemple, ceux qui ont les péotes pour les sfaradim, c'est derrière les oreilles, c'est pas devant. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la barbe, c'est le chesed. Les cheveux, c'est le din. Si tu les mets devant, les deux ils se mélangent. Il y a un problème, il y a une contradiction, c'est pas possible. Je sais pas ce que ça veut dire, je vous dis de suite, c'est pas au niveau de la spiritualité, j'en sais rien ce que ça veut dire au niveau de la Kabbalah. Mais comme ça, il explique. Même, ça veut dire que dans tous les niveaux, on voit que chaque chose, elle a sa place. Un Israël, c'est pas un Lévi, c'est pas un Kohen. Et un Kohen, c'est pas un Kohen Gadol, et un Kohen Gadol, il sera jamais Moshe Rabbeinu. D'accord? Parce que chacun a sa place. Sheniske Be'ezrat Hashem, et à l'aider qu'il n'y ait plus jamais de Mahlokto dans le peuple d'Israël. Parce que vous savez que la seule chose qui écarte la Mashiach, d'accord? C'est les guéguerres entre juifs, c'est le mahloktot entre juifs, chacun veut la place de l'autre. Ouais. Et forcément, après on tombe dans la faute de la Shonara, même Motsi Shemra, ils ont dit Moshe Rabbeinu, il a fait Echetish. Jusqu'où ils sont allés? À cause de leur mahloket. Et Chas V'Chalila, combien on voit de catastrophes qui ont eu lieu après des grosses mahloktot, même dans le monde religieux. Même dans le monde religieux. Asheniske Be'ezrat Hashem, de comprendre que on doit faire notre travail et pas celui des autres.